Tamani, voici nos informations en français.
Toujours pas de gouvernement de transition, quatre jours après la dissolution de l'ancien et la reconduction du Premier ministre. Les tractations continuent. Le Premier ministre a reçu successivement aujourd'hui la classe politique, la société civile. La grève de l'UNTM se poursuit et fait des mécontents, notamment parmi les clients des établissements bancaires. Certains d'entre eux estiment que ce n'est pas le moment de faire des revendications. La Journée internationale des musées est célébrée aujourd'hui, 18 mai. Le thème de cette année est « Avenir des musées, se rétablir et se réinventer ». Elle intervient alors que plus d'une trentaine de musées du pays souffrent des affres de la crise sanitaire et sécuritaire. C'était là le sommaire de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. À la présentation, Adama Amadou Haïdara, le nouveau gouvernement de transition est toujours attendu. Déjà, les Maliens s'interrogent si les M5 RFP va intégrer la future équipe de Mokhtar Wane. Selon ses responsables, le mouvement du 5 juin est prêt à faire son entrée au gouvernement, mais à certaines conditions. Quant au Premier ministre Mokhtar Wane, il assure que l'intégration de ce nouvel exécutif est conditionnée à l'engagement patriotique, la compétence et le sens du devoir national à Pour des observateurs, les acteurs doivent mettre le Mali en avant et aller aux négociations. Les détails avec Mohamed Babakunta.
Pour Bassirou Bendoumbia, aujourd'hui, le Mali a besoin de l'inclusivité. L'auditeur en politique publique estime que face à l'échec de 9 mois du gouvernement, il est important que les M5 RFP acceptent la main tendue des autorités de la transition.
Pour moi, il est temps aujourd'hui que le M5 sorte de ce discours guerrier, qu'il accompagne volontairement cette gouvernance pour les 9 mois qui restent. Je pense qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les portes, il faut accepter de rencontrer l'autre partie, s'asseoir, discuter entre Maliens comme on a toujours recommandé pour une sortie de crise dans les 9 mois. Sinon, je vous le dis, si on ne fait pas attention, c'est le chaos dans les 9 prochains mois.
Les M5 RFP affirment que les portes restent ouvertes. Mais selon Ibrahim Ikasamaiga, membre du mouvement, l'entrée du mouvement au futur exécutif se fera à certaines conditions.
On n'a jamais déclaré qu'on ne participerait pas à un gouvernement. Le M5 est à participer au futur gouvernement sous conditions. Ces conditions-là, ce sont les 10 points. On a dit ces mesures, si elles sont appliquées, tout le monde est d'accord. On va sortir de l'eau et on aura une situation sociopolitique apaisée.
Le politologue Boubacar Bokoum se montre plus sceptique. Selon lui, les revendications du M5 RFP posent problème et seront difficiles à accepter par les autorités.
Les conditions qu'ils ont posées, je ne vois pas de l'autre côté la disponibilité de répondre à leurs revendications. Parce qu'en réalité, ce qui pose problème, c'est que le système de bonne gouvernance n'est même pas acté par eux. La compréhension du problème social n'est pas actée.
En attendant, les tractations continuent, mais selon le Premier ministre, l'engagement patriotique, la compétence et le sens du devoir national accompli seront les critères de choix pour la composition du nouveau gouvernement.
Comme annoncé dans le sommaire, le Premier ministre a reçu aujourd'hui successivement le M5 RFP, l'ancienne majorité, mais également des organisations de la société civile. Selon les participants, ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des consultations pour la formation du nouvel exécutif. Pour les populations, notamment celles du Nord, les attentes sont énormes. Elles souhaitent que le futur gouvernement soit celui du changement, mais également un gouvernement capable de trouver des solutions aux différents problèmes auxquels le pays fait face, notamment l'insécurité. Écoutons quelques réactions recueillies par notre correspondante à Gao, Hadiza Mohamed Maïga.
On voudrait juste un gouvernement responsable, un gouvernement qui pense aux populations, pas un gouvernement qui viendrait pour ses propres intérêts.
Nos attentes sont les suivantes. Nous voulons vraiment un changement digne dans le travail. Surtout, nous voulons plus de sécurité, plus de stabilité pour le pays.
Moi, je dis tout simplement que le problème, ce n'est pas de changer pour changer. On a besoin des hommes et des femmes qui ont l'amour de ce pays. On est ministre pour prendre des décisions, passer à des actions concrètes.
On veut un gouvernement aussi qui va travailler pour les élections prochaines. On veut un président démocratiquement élu. Après ça, le gros problème ici au Nord, c'est l'insécurité. L'insécurité est toujours grandissante au Nord du Mali.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte à Twitter. deuxième jour de grève de l'UNTM, le mouvement est suivi dans la capitale, notamment dans les établissements bancaires, au grand désarroi des clients. Ces derniers ne cachent pas leur mécontentement et estiment que ce n'est pas le moment de faire des revendications. D'autres, en revanche, disent comprendre les raisons de cet arrêt de travail, mais appellent l'UNTM à la retenue. Écoutons-les au micro de Aïssata Diarra.
Je viens juste à la banque, je voulais faire un retrait. J'ai une sœur qui vient d'être admise à l'hôpital qui est en train de saigner. Il n'y a pas de fonds, nous de Guizy. Donc pratiquement la banque est fermée. Nous demandons à l'UNTM et à l'État vraiment d'essayer de rapprocher et convenir sur une situation convenable. Les gens souffrent beaucoup.
Il faut un compromis entre les parties. Sinon, l'UNTM est dans son droit, mais il ne doit pas aussi dépasser les limites.
Une semaine de grève aura un impact négatif sur l'économie du pays. Ça ralentit le progrès.
Le pays n'a aucunement besoin de ce genre de choses actuellement. L'heure est à la réconciliation. Maintenant, si le nouveau président est investi, on peut faire les réclamations. Moi, je crois qu'il faut s'asseoir à tout ça d'abord.
La Journée internationale des musées est célébrée ce mardi 18 mai sous le thème « Avenir des musées, se rétablir et se réinventer ». Cette journée est l'occasion pour les professionnels des musées d'aller à la rencontre du grand public et de le sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face pour être des institutions au service de la société et de son développement. Cette année, elle intervient au Mali dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire qui secoue tous les secteurs touristique, surtout à l'intérieur du pays. Les détails avec Aboubakrine Ag Mohamedine Yattara.
Au nord et au centre du pays, les musées et galeries subissent de plein fouet les conséquences de la crise sécuritaire et sanitaire. Depuis 2012, les musées de ces localités ne reçoivent plus de visiteurs. Une situation dont les conséquences ont été énormes sur leur personnel. Aboubakar Kani, directeur de la galerie Eldorado à Mopti.
Nous n'avons ni bénéficié de soutien moral ou financier de la part de quiconque. À ce stade-là, il y a beaucoup de gens de ce secteur-là qui ont fui la région d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de résistance financièrement. Il y a certains métiers même qui sont en voie de disparition.
Ces difficultés sont réelles. Koni et touche presque les 30e musée du Mali déplorent le département de la Direction nationale du patrimoine culturel. Cependant, ses responsables regrettent que la structure ne dispose pas des moyens pour l'entretien des musées. Ibrahim Sissé, chef de division des musées au niveau de la Direction nationale du patrimoine culturel.
À part le musée de Corée de Ségou et les musées nationaux, un peu les musées Sinofo à Sikasso, sinon tous les autres musées souffrent de la crise, de la pandémie. Son nombre aujourd'hui de 30 et quelques. Donc sur ces 31 musées, vraiment, ils fonctionnent très mal. Au niveau du département, à ma connaissance, il n'y a pas un fonds spécifique pour l'entretien des musées. La direction vient en appui technique, en appui conseil.
En attendant la fin de la crise ou l'adoption des solutions idoines pour soutenir les musées pendant cette période de crise, les travailleurs de ces structures prennent leur mal en patience.
L'image de la femme claire a longtemps été adulée au Mali. Pour y parvenir, beaucoup d'hommes et de femmes n'hésitent pas sur les moyens. Les utilisateurs ainsi que les vendeurs de produits éclaircissants se multiplient chaque jour. Mais aujourd'hui, certaines femmes essayent de sortir de ce cercle vicieux. Mariam Koulibaly nous en dit plus.
La dépigmentation reste un problème de santé publique et beaucoup d'utilisateurs l'ont appris à leurs dépens. C'est pourquoi Diara Diané, après plus de 10 ans d'utilisation, a décidé d'abandonner la pratique. Elle mène une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux.
Le déclic, je l'ai eu un jour quand ma mère, elle a commencé à crier quand elle voyait les taches qui commençaient à apparaître sur mes pieds. J'ai pris tout ce que j'avais comme produit éclaircissant, 2 gros sacs bleus de 100 francs. Donc j'ai mis tous les produits dedans, j'ai attaché et je suis allée jeter à la poubelle.
Si cette dernière a décidé de reprendre sa santé à main, certaines sont toujours à l'affût de nouveaux produits éclaircissants. Leur but principal est d'attirer l'attention à travers la clarté de leur peau.
Moi, je suis naturellement claire, mais j'utilise aussi des produits éclaircissants qui coûtent cher. Dans le mois, je peux utiliser 80 euros.
On remarque que la vente de produits éclaircissants fleurit de jour en jour et les vendeurs gagnent beaucoup. Pour Sarasso, vendeuse de produits éclaircissants, ceux qui utilisent ces produits décapants doivent être conscients des dangers.
Aujourd'hui, il y a tellement de produits à base d'hydroquinone. Pour ça, ils utilisent les produits sans pour autant connaître les composants.
Oui, c'est rentable, ça nourrit son homme.
Devenir clair à n'importe quel prix, c'est possible, mais cela a un coût. Il est non seulement financier, mais aussi sanitaire.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Les échos de nos régions, la sécurisation des personnes et de leurs biens préoccupent les autorités régionales de Saint. Le gouverneur a rencontré hier les services en charge de la sécurité, les autorités administratives, politiques ainsi que les hommes de médias. Il s'agissait de trouver des voies ou moyens dans la lutte contre le banditisme et l'insécurité de façon générale. Il a promis que la sécurité sera renforcée avec l'organisation des patrouilles mixtes. À Ansongwe, un notable du village de Gassi a été enlevé et tué par ses ravisseurs la semaine dernière. Selon le maire de la commune, Younaï Issa, assurait l'intérim du chef de village quand les présumés terroristes l'ont tué et abandonné le corps. Un autre jeune enlevé à Tassiga est toujours entre les mains des ravisseurs. Selon les habitants, la commune de Boura vit aujourd'hui dans la peur et l'angoisse. Les autorités sont interpellées pour rétablir la sécurité dans la zone. Un jeune homme de 27 ans s'est donné la mort en buvant de l'insecticide à Goualala, à 25 km de Yanfolila. Selon des sources proches de sa famille, sa mère l'aurait grondé pour qu'il arrête de consommer de l'alcool. Il a été transporté d'urgence au CCRF de Yanfolila où il a rendu l'âme. Et c'est avec cette information de Yanfolila que se referme le journal de ce soir. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org. Vous pouvez aussi appeler gratuitement sur la plateforme Diamo au 37 321.